Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin et dans chaque épisode, je pars questionner les meilleurs créateurs pour comprendre les choix et les découvertes qui ont changé leur vie. Cet épisode est sponsorisé par Patreon, qui est le partenaire officiel de cette saison 4. Et je suis très heureux de travailler avec eux, car ils se battent pour la même cause que moi. Permettre aux créateurs de travailler sur ce qu'ils aiment et d'être payés en retour par tous les gens qui aiment leur travail. Le fonctionnement est très simple. Si vous créez, Patreon vous permet de recevoir directement de la part de votre communauté une contribution financière chaque mois pour soutenir vos créations. Et ça fonctionne quel que soit votre domaine de création. La créativité nécessite de sortir des sentiers battus, et Patreon l'a bien compris. Grâce à ce lien entre vous et vos fans, vous recevez le support dont vous avez besoin pour oser de nouvelles idées et aller encore plus loin dans vos projets. Et tout ça sur une interface simple et facile d'accès pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte le plus, vos créations. Je suis très fier qu'on puisse vous aider ensemble à progresser sur cette saison 4 et je vous encourage tout de suite à aller vous inscrire sur le site de Patreon, www.patreon.com. Pour ce quatrième épisode de la saison, j'avais envie de vous proposer quelque chose que j'ai pas encore fait jusque-là sur Inspiration Créative, à savoir un épisode solo. Je me rends compte que ces 10 dernières années, j'ai développé plein de connaissances, plein de choses pour vous aider à mieux promouvoir ce que vous faites, pour vous aider à mieux vivre de vos créations. Je sais donc que j'ai ces petites pépites, ces idées que je peux vous partager pour vous aider à mieux avancer sur votre chemin de créateur. Et jusque-là, j'avais laissé la place beaucoup à des interviews. Et j'ai envie de pouvoir vous partager encore plus, à partir de maintenant et dans le futur, ces moments d'expertise, ces choses qui peuvent vous éveiller, qui peuvent vous amener à voir les choses différemment, et surtout à avancer en étant mieux équipé sur votre route. Donc c'est le premier épisode, il y en aura un tous les 3 interviews, donc je vais toujours faire 3 interviews puis un épisode solo. Et pour ce premier épisode-là, j'avais envie de vous parler d'un... Vous avez voté sur Instagram, c'était super cool d'ailleurs, et j'avais envie de vous partager un épisode qui s'intitule « 3 idées pour trouver des clients quand on crée ». L'idée, c'est de pouvoir vous faire comprendre que, bien sûr qu'on a envie d'avoir des projets qui sont viables directement, sans bosser avec des clients, sans être prestataire de quelqu'un, mais ça peut prendre du temps. Moi, j'aime bien cette métaphore des 2 curseurs. On a un curseur qui est déjà bien présent, qui est une source de revenus, qui peut être par exemple des clients, qui peut être par exemple un emploi salarié, peu importe ce que c'est. Et à côté, on va faire croître, grandir petit à petit l'autre curseur qui va permettre de prendre le relais et de faire diminuer ensuite le premier. Et donc, vous faire réfléchir à comment trouver des clients, comment vous faire connaître, comment réussir à vendre vos créations, vendre vos projets, vendre vos services et vos prestations, c'est un super moyen de pouvoir commencer à trouver une première brique de votre business model. C'est pas forcément la première, hein, certains ont déjà bien réfléchi à ça, mais en tout cas, il y a vraiment une réflexion de se dire comment, en tant que créateur, je peux faire quelque chose qui est viable pour pouvoir vivre à plein temps de ma passion. Mon conseil numéro 1, il est relatif à vos demandes. On est tous débiles parce qu'on passe un temps fou à se dire qu'on a envie de travailler avec des gens, on a envie de faire des beaux projets, on a des entreprises qui nous font rêver, mais on ne demande pas à travailler avec elles. Alors moi, je suis plutôt très négatif sur la prospection. Je déteste la prospection. Je trouve qu'il n'y a rien de plus complexe et difficile. Et voilà, c'est horrible d'aller demander à quelqu'un qui ne nous connaît pas « Bonjour, est-ce que vous cherchez quelqu'un? Est-ce que vous auriez du travail pour moi ?» etc. C'est un côté un peu, j'exagère un petit peu, mais presque à demander, à être presque à mendier quelque chose, alors qu'on n'est pas dans une position de rapport de force où la personne va être convaincue de ce qu'on fait. En revanche, je pense qu'il y a des formes de contact humain, de conversation, de prise de contact avec des gens avec qui on a envie de travailler, qui peuvent être beaucoup moins froides que de la prospection, beaucoup plus humaines et qui peuvent amener à des beaux résultats pour vous en termes de clients. Et donc mon premier conseil, ce serait ça, multipliez par 10 vos demandes. Comment ça se passe? Très simplement, la première étape, c'est de pouvoir réfléchir à qui sont les clients de rêve avec qui vous avez envie de bosser. Ici, c'est pas un travail sur le persona, le but n'est pas de vous dire avec qui et quel type de client j'ai envie de bosser, mais juste de commencer par, pour pouvoir travailler avec les gens dont vous rêvez, commencer à avoir juste une idée claire de qui sont ces gens. Donc ça peut être très simple, vous prenez un fichier Excel, vous prenez une liste, vous prenez un morceau de papier et vous allez noter là-dessus qui sont les 10 entreprises, les 10 personnes, les 10 partenariats avec qui je rêve de travailler, et juste notez-les, écrivez sur un bout de papier. Ces gens-là, c'est les gens avec qui j'ai envie de bosser, et vous dressez la liste. C'est une liste qui va vous permettre ensuite d'être très clair sur la suite idéale vers laquelle vous évoluez et les contacts que vous avez envie de prendre. Pour éviter de faire de la prospection bête et méchante, ce que je vous conseille, c'est de réfléchir à comment vous pouvez contacter ces 10 entreprises-là, ces 20 entreprises-là. Vous pouvez être ambitieux, il peut y en avoir 20. Comment vous pouvez les contacter avec audace? Je trouve qu'on a tous tendance à essayer de faire un peu comme tout le monde et se dire « Ok, je vais prendre un email, je vais faire les choses froides, je vais dire bonjour, je m'appelle machin, j'aimerais, est-ce que vous auriez du boulot ?» Ça marche dans 0,1% des cas. C'est vraiment pas une bonne manière de faire parce que vous distinguez pas du lot. L'autre approche, c'est de se dire, qu'est-ce que cette personne avec qui je rêve de travailler pourrait avoir envie de recevoir pour que elle ait la curiosité de me contacter, d'échanger et d'ouvrir peut-être une opportunité de collaborer ensemble. Il y a des tas d'exemples pour ça. Vous pouvez décider de leur écrire une lettre, vous pouvez leur envoyer une vidéo par mail, ou même déjà une première étape, ça pourrait être de se dire comment, dans un simple mail, je peux arriver à transmettre un maximum d'émotions, un maximum d'humanité pour arriver à connecter avec la personne en face. Je vous donne deux exemples. Si vous envoyez un message et vous dites « Bonjour, est-ce que vous auriez du travail pour moi ?» etc., etc., etc. Ça peut vite être triste et très corporate et ça ne va pas aboutir à grand-chose. Alors que si vous dites « Bonjour, Martin, ça fait depuis 3 ans que je regarde ce que vous faites, c'est absolument génial. J'ai beaucoup aimé ce que vous aviez fait sur ce projet-là, ce projet-là, ce projet-là. » Je dois vous avouer qu'en 2022, un des trucs qui me ferait le plus kiffer, c'est, j'exagère, vous n'êtes pas obligé de dire kiffer, mais un des trucs qui me ferait le plus plaisir, c'est de travailler avec vous. Je suis illustratrice, voici ce que je fais, voici mon projet, où je fais ce genre de service. Je pense que ça pourrait vous aider à faire ça, ça, ça et ça. Est-ce que vous seriez à la recherche de quelqu'un? Si c'est le cas, est-ce qu'on peut s'appeler pour en parler? Voici mon portfolio. Fin du mail. Très simplement, ce qui va se passer là, c'est qu'il y a une vraie connexion humaine, il y a quelque chose de sincère et on casse les codes un peu de l'email bête et méchant, de prospection froide qui n'a tendance à marcher jamais. Bien sûr, si vous allez encore plus loin et que vous envoyez une lettre, par exemple à un magazine avec lequel vous rêvez de travailler, ou si vous envoyez une demande à quelqu'un d'une manière la plus originale possible, les chances, elles augmentent x10. Par exemple, moi je rêve en ce moment d'interviewer Alejandro Jodorowsky. Je ne sais pas si vous connaissez Alejandro, mais c'est un mec incroyable qui a fait des choses, un réalisateur incroyable, qui a fait des films magnifiques, qui a fait des choses sur le tarot, qui a inventé une discipline qui s'appelle la psychomagie. Alejandro, il a 93 ans, il est très dur à contacter, il habite à Paris, mais il accepte très peu d'interviews. Je suis en train d'essayer d'imaginer une manière de faire ma demande la plus originale possible pour aller vers les 100% de chances qu'il me réponde, positivement ou non, mais qu'il me réponde. Donc je vais imaginer un cadeau que je vais essayer de lui emmener chez lui, devant sa porte, toquer ou dans son café préféré à Paris, qui sera une boîte en bois dans laquelle il y aura quelque chose de brodé, qui quand il va l'ouvrir, va faire du son et va lui proposer ma demande d'interview. Bon, alors c'est un petit peu plus complexe que ça, je vous la résume vite. Mais tout ça pour vous dire que quand vous faites une demande, je préfère que vous réfléchissiez à faire 10 demandes incroyables plutôt que des demandes à l'appel de prospection froide où vous avez un rapport de force déséquilibré et qui perceront jamais. Si vous vous appliquez à faire des propositions tous les jours, c'est sûr que vous allez commencer à avoir des résultats. Et si vous appliquez à les faire pour les entreprises avec qui vous rêvez de travailler et les clients avec qui vous rêvez de travailler, ça fonctionne encore mieux. Et ça peut être le cas aussi pour des particuliers. La question c'est, aujourd'hui vous avez envie de vous vendre par exemple des produits artisanaux ou vous vendez quelque chose qui n'est pas un client, qui n'est pas une entreprise. Est-ce que, avec votre produit, vous faites des offres tous les jours? Est-ce que vous faites des propositions tous les jours? Ou est-ce que vous le faites qu'une fois par mois, quand il y a une occasion, un événement, quelque chose qui est sur Instagram? La question c'est, vous ne pouvez pas faire de vente, vous ne pouvez pas trouver des clients si vous ne faites pas des demandes. Et donc, ce premier conseil là, c'est vraiment de vous dire, essayez de multiplier par 10 vos demandes. Le conseil numéro 2, il est assez simple et en même temps très important, c'est essayer de trouver vos super clients. Il y a une métaphore que j'aime bien, ceux qui me connaissent vont dire que je fais trop de métaphores, mais j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça vous permet vraiment de comprendre, c'est essayer de chercher vos fougères. Une fougère, c'est simple, c'est une plante qui, dans la forêt, va être celle qui se multiplie le plus. Et votre super client, c'est quelqu'un qui va être un nœud de réseau. C'est-à-dire que si vous travaillez avec lui, si vous arrivez à en convaincre un, c'est tout à fait le genre de personne qui va vous en amener 3, 4, 5 et peut-être même plus. Mais si vous le faites bien, c'est le genre de client qui a potentiellement un réseau qui va s'ouvrir à vous. Je vous donne quelques exemples. Moi, je travaille avec Diane, qui travaille avec moi et qui m'épaule sur pas mal de créations, sur Instagram, sur les réseaux, sur le podcast. Et Diane, je sais que quand elle s'est mise à travailler avec moi, j'avais envie ensuite de lui ouvrir mon réseau parce que j'étais super content de pouvoir travailler avec elle. C'est ce qui l'a amené à travailler avec Alexandre Dana de Live Mentor, c'est ce qui l'amène à travailler avec Thomas Burbidge de Young Wild and Freelance, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, je vous encourage à aller l'écouter. Et cet exemple-là, il est super intéressant parce que Diane l'avait peut-être pas pensé comme ça quand elle m'a contacté au début et quand on s'est mis à travailler ensemble. Mais de fait, si vous faites ce travail d'identifier les nœuds de réseau, c'est-à-dire ces super clients qui peuvent vous en amener 5 autres, vous allez pouvoir gagner un temps précieux en vous disant « Ok, un de convaincu m'en amènera plein d'autres. » Et j'en vois plein des exemples comme ça. C'est un vrai principe de bouche à oreille ancré dans votre démarche de contacter vos clients. Exemple très simple, un autre que j'ai en tête, Maud, qui m'avait aidé sur les illustrations de La Flamme en octobre dernier. Et ben Maud, c'est génial parce qu'une fois que La Flamme s'est terminée, on a bossé ensemble, et ben ça lui a permis de travailler avec 2-3 autres personnes de mon réseau, comme par exemple Lorraine de Alamano, et d'autres qui lui ont permis de signer d'autres missions. Et ben typiquement, pour Maud, je suis dans ces situations-là un super client parce que je suis le genre de client qui va lui ouvrir son réseau à d'autres. Alors, comment concrètement vous pouvez mettre ça en place dès demain pour votre activité? Ça peut être très simple. Il y a quelques jours, je vous donne cet exemple-là qui pour moi est l'exemple parfait. J'ai une ancienne de mes prestataires qui m'a contacté, qui s'appelle Lola Benzazon, et elle m'a envoyé un message qui disait « Hello Kylian, comment vas-tu? Je reviens vers toi aujourd'hui avec un petit service à te demander. Pour te raconter un peu l'histoire, une ancienne cliente m'a demandé si j'avais un document expliquant qui je suis et ce que je fais, pour le transmettre à un contact à elle. J'ai trouvé l'idée super, et je me suis dit pourquoi pas le transmettre à d'autres. Car je pense que tu dois t'en douter, le bouche à oreille est la plus belle des manières de s'entraider et faire en sorte que de nouveaux clients nous fassent confiance. » Grâce au retour d'expérience d'un client heureux. Du coup, aurais-tu dans ton entourage des entrepreneurs qui pourraient avoir besoin de mes services? Je trouve que c'est un mouvement très malin, qui est exactement celle de pouvoir identifier des nœuds de réseau. Lola se dit que, ayant fait du bon travail pour moi, j'ai peut-être des gens à qui je peux la recommander. Et ce travail proactif de venir me dire « Je trouve que c'est une super idée, j'ai envie de bosser avec des gens encore plus comme toi dans le futur et en 2022, Kylian », c'est un excellent moyen que moi je puisse ensuite lui ouvrir le réseau et que j'ai cette idée-là de pouvoir l'aider encore mieux à travailler avec des gens comme moi. Donc vraiment faites cet effort et dites-vous, est-ce que parmi vos clients existants, des gens qui ont déjà travaillé avec vous, des gens qui ont déjà acheté vos produits ou vos services, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient devenir un super client, une fougère, qui vous en amènera 5 autres par la suite? Le troisième conseil que je voulais vous partager, c'est un conseil super important que vous avez tendance à beaucoup oublier. Show what you want to work on. L'idée, c'est de montrer à vos clients le travail que vous pouvez réaliser pour eux avant qu'ils signent avec vous. Il faut bien avoir en tête que pour votre futur client, une personne qui sera amenée à collaborer avec vous, travailler avec un créateur, c'est toujours un investissement pour ce client. Et votre but, vous, en tant que créateur, c'est de faire en sorte que vous alliez vers le risque zéro. C'est-à-dire que dans la tête de votre client, travailler avec vous soit proche du risque zéro et qu'il en reçoive un maximum de choses en retour. Un client, il a plusieurs risques dans sa tête. Il se dit, est-ce que ça va être la bonne personne avec qui je vais travailler? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce que le travail va être de qualité? Est-ce que le prix que j'y mets va me rapporter autant et plus par la suite? Il va y avoir un bon retour sur investissement. Et donc, votre but, c'est de rassurer ce client et de créer la confiance au maximum. J'aime bien cette phrase en anglais qui dit « Be a friend first, a salesman second ». Soyez d'abord un ami et ensuite quelqu'un qui vend ses services, qui vend ses produits. Alors, comment on peut faire ça? Comment vous pouvez faire en sorte de diminuer ce risque zéro? La première chose, c'est de faire en sorte que toutes vos créations actuelles et toutes celles que vous allez sortir pour préparer le terrain, elles soient dans une logique où elles montrent ce que vous savez déjà faire et ce sur quoi vous pouvez aider vos clients. C'est-à-dire que si on reprend la liste, que vous avez fixée dans le conseil numéro 1 avec vos 10 entreprises de rêve, j'ai envie que vous puissiez faire des mises en situation, de pouvoir vous dire, ok, si j'ai envie de bosser avec cette marque de brasserie, est-ce que je peux leur proposer une prestation ou en tout cas un aperçu de ce que je peux faire sans que ça les engage, mais pour leur montrer que je suis capable de faire un travail qui va leur plaire. Exemple, si vous êtes illustrateur ou si vous travaillez dans les métiers visuels, vous allez avoir besoin d'un portfolio qui va vous montrer votre travail à ces clients-là et idéalement le travail que vous avez envie de réaliser pour eux. Et je vois beaucoup trop de personnes qui se disent « Ah bah trop bien, j'ai envie de bosser avec ces entreprises-là, mais je leur montre rien qui puisse les rassurer par rapport à ce que je sais faire. » Donc allez au maximum vers le besoin, vers les idées, vers les créations que vous avez envie de vendre à vos clients ensuite. Plus vous allez le faire et plus vous allez les montrer, plus vous allez montrer ce travail sur lequel vous êtes capable de travailler, plus ça va les rassurer et ça va attirer vers le risque zéro. Il y a trois manières dont vous pouvez créer ce risque zéro. La première, c'est essayer de partager votre expertise. Montrez-lui que vous êtes une référence dans votre domaine. Montrez-lui que vous travaillez. Montrez-lui que vous avez des compétences. Montrez-lui votre portfolio. Montrez-lui vos références, montrez-lui des témoignages de vos anciens clients. Toutes ces choses-là, ça vient rassurer et tirer vers le risque zéro. 2, essayez de transmettre et d'enseigner des choses à votre client. À travers vos contenus, à travers vos idées, à travers des conseils, à travers une transformation dans la vie de vos clients, peu importe ce que vous proposez, vous allez pouvoir les convaincre que vous avez quelque chose à apporter, que vous êtes la bonne personne pour le faire. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de stratégie de contenu, de ligne éditoriale, de savoir ce qu'on va publier sur les réseaux. C'est que toutes ces choses-là, quand elles sont bien faites, elles font comprendre à votre client que vous êtes la bonne personne pour l'aider. Et c'est valable quel que soit votre domaine de création, que vous vendiez des produits artisanaux, que vous soyez créateur d'entreprise et que vous avez envie de promouvoir vos services, ou que vous soyez illustrateur ou que vous travaillez dans les métiers visuels. Tout ça, ça fonctionne. Et si vous êtes à même de montrer à travers certaines choses que vous produisez et certaines choses que vous enseignez à votre client, que vous êtes capable de lui apporter une transformation, et bien directement, ça va le convaincre de pouvoir travailler plus facilement avec vous. Et la troisième chose qui est souvent négligée, c'est essayer de créer un lien avec des histoires. On revient ici à ce que je disais juste avant sur être d'abord un ami avant d'être un vendeur. Et votre rôle avec votre client, c'est de créer une connexion humaine pour qu'il ait envie de travailler avec vous, plutôt qu'avec un autre. Donc, toutes les histoires, tout votre univers, tout ce qui sort simplement de votre expertise va lui permettre de se connecter à vous, de le divertir, de l'associer humainement à votre personnalité, à votre univers. Et ça, ça a une vraie valeur. Souvent, je vois des créateurs qui se disent « Ok, ce que je dois montrer sur les réseaux, ce que je dois montrer dans mon travail, c'est mon expertise. » Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que votre expertise, elle ne se limite pas à votre travail. Votre expertise, c'est l'ensemble de votre univers, c'est-à-dire toutes les choses que vous aimez, toutes les choses qui composent votre personnalité, et pas seulement votre expertise. C'est-à-dire que si demain, vous avez un client qui est amateur de chiens, et qu'il voit deux illustrateurs, et qu'il hésite avec lequel travailler, si il voit que vous aimez les chiens, il y a des chances qu'il se connecte plus facilement humainement à votre personnalité. Et donc, qu'il aille vers vous plus spontanément parce qu'il sent que ça matche plus. Et votre rôle, c'est aussi de pouvoir ouvrir votre cœur, ouvrir votre carapace, que l'on n'a pas trop tendance à faire parce qu'on se dit souvent que c'est très sérieux de travailler avec un client. Mais plus vous êtes à même de le faire, plus vous êtes à même de montrer que votre univers, ça ne se limite pas seulement à votre travail, vous avez une richesse derrière d'univers, plus vous allez pouvoir vous connecter avec vos futurs clients. Donc on arrive au bout de ces trois idées que je voulais vous partager aujourd'hui pour trouver des clients quand on est créateur. Je vous les rappelle, le premier c'est d'essayer de multiplier au maximum vos demandes parce que plus vous allez faire d'offres, plus vous allez avoir des choses qui convertissent et plus vous allez pouvoir vivre de votre activité. La deuxième c'est de chercher vos fougères, d'essayer de trouver vos super clients qui sont capables de devenir vos nœuds de réseau qui vont vous amener à en toucher beaucoup plus par un principe de bouche à oreille assez simple et d'essayer d'être proactif là-dessus pour aller chercher un maximum de personnes et essayer de se dire comment je peux planter une graine dans la tête des gens, hein, on est des fougères hein, tant qu'à faire, pour pouvoir leur donner envie de m'ouvrir leur réseau à d'autres personnes. Et puis la troisième chose, c'est ce truc très intuitif mais qu'on a tendance à ne pas faire qui est de se dire comment je peux montrer le travail sur lequel j'ai envie de réaliser pour inciter mes clients à aller vers un risque zéro et à me considérer comme la bonne option à choisir. J'espère que cet épisode solo vous a plu, c'est la première fois que je le faisais et si ça vous a plu, je pourrais vous en partager beaucoup d'autres. On pourrait aborder des dizaines de choses sur comment trouver des clients et plein d'autres sujets fameux. Je vous remettrai, je pense, dans les prochaines semaines un petit sondage sur Instagram pour choisir avec vous les prochains sujets sur lesquels on fera un épisode solo. Si l'épisode vous a plu, ça me fera très plaisir d'avoir un retour de votre part sur Instagram et laissez-moi une petite note sur Apple Podcasts ou Spotify. Mais le plus important, c'est que ça puisse aider un maximum d'autres créateurs. Alors n'hésitez pas à le partager, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir faire rayonner ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde !